France Culture.
Et les midis de culture, c'est reparti. Bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent à 13h comme promis. On discutera avec la romancière Florence Sévaux. Son roman Un perdant magnifique vient de paraître aux éditions de l'Olivier. Mais tout de suite, place au point culture de Marie Sorbier. Bonjour Marie.
Bonjour Marie et bonjour à tous. Louis Braille, mort le 6 janvier 1852, invente l'alphabet pour aveugles et non-voyants qui porte son nom en 1829. 172 ans plus tard, qu'en est-il de l'accessibilité pour tous à la lecture, sachant que pour un livre de poche, il faut en moyenne 11 volumes dans sa version en braille. Le braille et la littérature, c'est le dossier du Point Culture du jour. Denis Guérin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargé de communication au Centre de transcription et d'édition en braille. Cette association assure depuis 1989 la transcription en braille de la littérature. Alors peut-être pour commencer, une question pratique. Pour produire des livres en braille, il faut, j'imagine, une imprimante spéciale qui ne délivre pas d'encre, mais du relief. Alors comment ça fonctionne très concrètement ?
Oui, il faut que des choses spéciales. Il faut des compétences spéciales qu'on ne trouve pas partout. Il faut des embosseuses qui sont des petits marteaux qui viennent donner ces points en relief qui composent les caractères braille. Il faut un papier spécial, ni trop épais, ni trop faible, ni trop humide, etc. Et puis, il faut beaucoup de temps parce qu'il y a tout un processus pour adapter les documents, les livres, toute l'accessibilité culturelle afin qu'ensuite un ordinateur puisse l'envoyer dans ses machines. Donc, ça vous explique directement pourquoi le livre en braille coûte très cher. Nous, c'est un prix de revient entre 500 et 700 euros à la fin.
Mais ça veut dire que le livre en braille n'est pas soumis à la politique du prix unique pour le livre ?
Non, en tout cas, si vous faites référence à la loi Lang de 80 et qui est commune à beaucoup de pays, c'est effectivement une loi qui avait pour but de protéger le lecteur et puis les éditeurs indépendants, c'est-à-dire que l'éditeur fixe un prix de revient, un prix de vente qui sera partout le même que l'on achète sur une plateforme de vente en ligne ou dans sa librairie. Mmh. Et ça n'a évidemment pas pris en compte cette autre édition qu'on appelle l'édition adaptée. Je vous rappelle qu'il n'y a pas que les livres en braille, il y a les livres pour les personnes atteintes de troubles 10, il y a également des livres pour les personnes sourdes, accessibles d'une certaine manière, il y a le Falk, facile à lire et à comprendre, des gros caractères pour les déficients visuels légers. Donc il y a beaucoup de choses et c'est cette édition adaptée qui effectivement est mal connue et notamment dans son écosystème économique et qui n'est pas pris en compte dans les lois et qui n'est pas aidée alors qu'elle est indispensable pour ces minorités avec un handicap.
Mais alors comment on fait si vous dites qu'un livre coûte en moyenne 500 euros pour être produit, comment on le rend accessible ce livre-là ?
Eh bien écoutez, en ce qui nous concerne, et ça va être propre à chaque association, déjà l'édition adaptée, elle est tenue que par le monde associatif. Si on n'est pas là, il ne se passera rien. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a d'autres secteurs plus rentables que de vendre à perte, puisqu'on vend tous nos livres à perte. On a par exemple, depuis 30 ans, un service qui est de rendre d'adapter en braille les relevés bancaires d'à peu près toutes les grandes banques françaises, parce que c'est évidemment important pour vous, comme pour moi, comme pour toute personne, de pouvoir consulter ses dépenses, son capital, ses placements en toute intimité, sans avoir à le faire lire par une tierce personne, un conjoint ou X. Et ça, effectivement, c'est une des choses qui nous permet d'avoir une trésorerie sur le long terme. Et puis après, on a aussi, depuis 2 ans, appliqué, on a forcé l'application de la loi Lang à nos livres en braille, c'est-à-dire que si je prends l'exemple d'un Harry Potter que tout le monde connaît bien, il va être vendu maintenant 10 euros en librairie, en livre classique. Nous, il va être vendu 10 euros aussi, alors qu'il va faire 18 volumes en braille, parce que le caractère en braille est plus large que celui d'imprimerie, plus tous les coûts que je vous ai cités tout à l'heure.
Mais cette disposition, elle ne concerne que quelques ouvrages. Là, vous prenez l'exemple d'Harry Potter, ça veut dire que tous les ouvrages que vous imprimez ne marchent pas avec ce système-là ?
Non. C'est tous les ouvrages, c'est tout notre catalogue, c'est-à-dire c'est plus de 1500 références qui est passé là. C'est notre gros combat depuis le 2 janvier 2023 et on a interpellé justement tous les parlementaires, les ministères culture et handicap dont nous dépendons pour essayer que ce projet-là puisse être aussi un jour aider d'une loi, d'une présence de l'État et pouvoir subventionner l'édition adaptée en toute autonomie.
Alors, vous venez de dire à peu près 2000 livres dans votre catalogue. Comment se fait le choix des livres que vous allez transcrire en braille ?
Alors ça c'est complexe. À peu près toutes les associations de notre type ont un comité de lecture parce que malheureusement on est un pays de livres. Ça c'est fort heureusement, j'allais dire plutôt. On a 876 000 je crois références différentes et nouvelles éditions et nous on va en faire que 200 par an parce qu'il faut ce personnel, ces machines, ce papier, ce temps à louer et donc il faut bien les choisir. Donc on a un comité de lecture et puis on essaye d'avoir un éclectisme de 5 ans à 99 ans. Et puis, on fait aussi des illustrations en relief, on fait des livres-jeux, on fait tout un tas de choses très, très modernes pour que justement les enfants de cette époque puissent, avec leur famille, développer la lecture partagée, apprendre le braille, avoir les grandes sagas comme Harry Potter, on le disait, mais c'est Pokémon, c'est Star Wars et c'est tous les autres, à peu près à égalité avec une cour d'école où on discute de tout ça.
Puisque vous parlez de la littérature jeunesse, est-ce qu'on peut aussi transcrire en braille les illustrations ?
Oui, on fait de l'adaptation d'images, absolument, que l'on rend ensuite par un vernis très robuste et on va simplifier l'image, on va adapter sa perspective. Ça aussi, c'est un travail qu'une de mes collègues fait à l'association et qui demande beaucoup de temps. Comprenez que si je vous présente un nez de face, vous n'en voyez pas la perspective. Si je vous présente Pinocchio de profil, vous verrez Pinocchio dont le nez s'est allongé en mentant. Et tout ça est aussi un savoir-faire particulier, avec des règles.
Alors, on parlait de l'accessibilité du livre. Est-ce que les bibliothèques ou les médiathèques sont aussi des relais pour vous ? Est-ce qu'il y a un système de prêt de ces livres en braille ?
Bien sûr. Alors, ça, c'est des relais très, très importants. Hein. Mais alors, ça a d'autres contraintes. C'est une autre cible. Nous, on essaye de se rapprocher des médiathèques en 2024 particulièrement, parce qu'ils n'ont pas tous la connaissance de l'accueil de ce public aveugle ou déficient visuel sévère et du braille. S'il faut déclarer une enveloppe budgétaire pour ces livres-là, il faut encore une aide à la commande, il faut aussi trouver un rayonnage, il faut qu'ils nous connaissent, et c'est toujours très 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 compliqué. Donc oui, c'est un rapprochement qu'on essaye à faire, donc s'ils nous entendent, qu'ils n'hésitent pas à aller voir notre site pour justement coopérer et faire qu'il y ait de plus en plus de braille. Et ça sert aussi aux voyants qui côtoient le braille. Mmh. En côtoyant le braille, écoutez, dans une génération, ce sera juste quelque chose de normal.
Une dernière question pour finir notre entretien, Denis Guérin. Est-ce qu'il y a des auteurs qui écrivent directement en braille ?
Alors, pas à ma connaissance, j'ai pas le souvenir. Par contre, il y en a de plus en plus, et je les remercierai d'ailleurs en même temps, qui ont cette démarche d'accessibilité. Donc, ils écrivent leurs livres, et il y a tout de suite une intention de dire qui c'est que je peux contacter pour avoir la version braille ou la version audio adaptée ou la version facile à lire et à comprendre. Donc, c'est cette prise en compte que la société est en train de faire, qu'il y a des minorités, il y a des minorités avec un handicap, et que s'il n'y a plus de livres physiques papier, comment on va faire pour l'orthographe, comment on va faire pour apprendre la grammaire, le langage, la communication écrite au travail, l'enseignement. Tout ne peut pas se faire par les nouvelles technologies, l'audio, des choses comme ça, même si tous les supports sont très très importants et une grande source de liberté.
Merci beaucoup, Denis Guérin.
Merci à vous.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie-Emilia Pérez vient de rafler 4 Golden Globes.
Oui, le film de Jacques Audiard, qui était nominé dans 10 catégories, a remporté le prix de la meilleure comédie, du meilleur second rôle féminin pour Zoé Saldana, du meilleur film international et de la meilleure chanson pour les Français Camille et Clément Ducol. Une bonne nouvelle pour le réalisateur, alors qu'Emilia Pérez est en course pour les Oscars. Un autre film français a lui aussi été récompensé lors de ses 82e Golden Globes, puisque Demi Moore a été sacrée meilleure actrice pour The Substance de Coralie Farja.
Plusieurs musées parisiens viennent de publier leurs chiffres de fréquentation pour l'année 2024.
Oui, alors que beaucoup d'institutions craignaient une baisse importante des visiteurs à cause des Jeux Olympiques, la fréquentation des musées dans la capitale s'est maintenue à un très bon niveau en 2024. Ainsi, le musée d'Orsay a accueilli cette année près de 5 millions de visiteurs, soit une baisse de 3% seulement, en comparaison de 2023 qui avait été une année record. Le Louvre a accueilli pour sa part 8,7 millions de curieux contre 8,9 l'an dernier. Et enfin, le Centre Pompidou a accueilli 3,2 millions de visiteurs, un chiffre en hausse de 22%, alors que le musée fermera ses portes en septembre pour 5 ans de travaux.
Et pour finir, Marie, les jeunes Britanniques ont adoré les nuits blanches en 2024.
Oui, mais alors je ne vous parle pas là, Marie, de fête ni de manque de sommeil. Les nuits blanches, c'est en effet le titre d'une nouvelle de l'auteur russe Fyodor Dostoïevski, plébiscité par les Britanniques de la génération Z. 50 000 exemplaires ont ainsi été vendus en 2024, en partie grâce à la promotion qu'en ont fait des influenceurs littéraires sur TikTok. La brièveté de la nouvelle, parue en 1848, et son sujet, les amours déçus du jeune narrateur, expliquent certainement ce succès inattendu.
Merci Marie, puis on se retrouve demain pour de nouvelles actualités culturelles. En attendant, il est 13h et vous êtes sur France Culture.